Vous écoutez On lit pour vous.
Et si on jasait de santé mentale des entrepreneurs? Une chronique d'Isabelle Pion, parue le 6 avril 2025 dans Le Droit. On connaît Myriam Corbeil comme fondatrice de l'Hôtel Unique, ses hébergements éphémères qu'on voit poindre à différents endroits dans la province. Entre la gestion de son entreprise et ses fonctions de chargée de cours à l'UQAM, elle s'implique auprès des entrepreneurs afin qu'ils prennent soin de leur santé mentale. Myriam Corbeil sait de quoi elle parle. Sa feuille de route peut donner le tournis. La fondatrice de l'Hôtel Unique est aussi doctorante en psychologie du travail. Au bout du fil, la jeune femme raconte qu'elle a toujours voulu être entrepreneur. Mais, comme les chances de survie d'un projet d'affaires en tourisme ou en restauration peuvent être de 20%, voire moins, elle a senti le besoin de se doter d'un plan B, et pas n'importe lequel. J'étais un peu pessimiste en me disant « Si ça ne réussit pas, qu'est-ce que je vais faire ?» Avant, j'étais travailleuse sociale et ça me manquait un peu cette relation d'aide. Je me suis inscrite au programme, mais ils prennent tellement peu de gens au doctorat en psychologie que je me suis dit « ça se peut que ça ne marche pas ». Finalement, le beau problème, c'est que les deux projets ont fonctionné. J'ai été admise au doctorat en même temps que l'entreprise a décollé. Elle trace des liens entre les deux projets, l'Hôtel Unique étant très axé sur le bien-être, rappelle-t-elle. C'est d'ailleurs à l'Hôtel Unique qu'elle a fait la connaissance de Louis-Félix Binette, directeur général du Mouvement pour accélérer l'innovation au Québec, MAIN. Il m'a parlé à quel point la santé psychologique des entrepreneurs était fragile. Je lui ai partagé que j'ai vécu des difficultés à un certain moment. Ce n'est pas évident d'avoir une entreprise, des employés, l'aspect financier. J'ai vécu beaucoup de stress, un genre d'épuisement, je pourrais dire. Ça m'a amené à me sensibiliser encore plus à la cause de la santé psychologique des entrepreneurs. C'est ainsi qu'est né son rôle de consultante et d'ambassadrice de l'initiative Le Parachute. Chapeautée par MAIN, elle a vu le jour dans la région de la capitale nationale. Un an après le lancement, une série de capsules vidéo vient d'être lancée. Selon des statistiques de la BDC, Banque des entrepreneurs, près de 46 % des entrepreneurs estiment que leur santé mentale nuit à leur capacité de travail. D'autres données montrent que seulement 16 % d'entre eux sont disposés à chercher de l'aide professionnelle. Ils sont freinés par le manque de temps, mais aussi par leurs craintes au sujet de leur réputation. Ces derniers attendent souvent d'être en crise pour réagir, estime Myriam. Souvent, l'entreprise devient nous. C'est notre identité. Or, ses employeurs doivent trouver un meilleur équilibre et tenter de dissocier vie personnelle et professionnelle. C'est de dire « je ne vais pas arrêter de faire du sport, de voir mes amis, de bien dormir et de bien manger. Moi, je suis beaucoup sur la route avec les tentes. On partait d'un festival à un autre, on se déplaçait d'un endroit à l'autre. Je devenais un peu troqueuse, à manger dans les dépanneurs », raconte celle qui a déjà dormi dans sa voiture. C'est de prendre un temps d'arrêt et de voir comment on se sent. On oublie même de prendre le pouls de comment on se sent jusqu'à temps qu'on frappe un mur. Et la question est toujours taboue. Les entrepreneurs doivent souvent être vus comme des super-héros capables de tout faire. Et puis, dévoiler leur vulnérabilité pour pourrait impacter la motivation des employés ou la confiance des investisseurs, m'explique Myriam. Et pourtant, un entrepreneur qui ne va pas bien, c'est son entreprise qui ne va pas bien. Avec Parachute, on souhaite que les gens d'affaires aient un espace pour partager leur vécu. Parmi les projets mis en place, on compte une banque de 5 heures pour des services psychologiques. Souvent, même les gens qui veulent payer pour un psychologue, ils ne peuvent même pas. On garantissait en 72 heures une réponse d'un psychologue pour un suivi de 5 heures gratuit pour au moins désamorcer une crise. Les responsables de Parachute font ainsi le pari qu'en parler publiquement permettra de combattre un tabou beaucoup trop grand. Au sujet de l'hôtel unique. Cette année, les villages de l'hôtel unique reprennent vie au domaine Saint-Bernard, dans les Laurentides, de même qu'à Rawdon, dans la Naudière. Depuis 2023, on a décidé de se stabiliser et d'être un peu moins nomade. C'est quand même assez complexe au niveau logistique et il y a des coûts de déplacement entre chacun des sites, explique la propriétaire. Le volet nomade est davantage mis de l'avant dans les festivals et les événements où les installations de glamping peuvent prendre racine. Quand on a commencé avant la pandémie, c'était l'idée de base, rappelle-t-elle, en soulignant qu'on souhaitait combler les besoins en logement en parallèle à la tenue d'événements. L'hôtel unique amorcera sa 6e saison le 16 mai prochain jusqu'au 13 octobre. C'était « Et si on jasait de santé mentale des entrepreneurs », une chronique d'Isabelle Pion, parue le 6 avril 2025 dans Le Droit.
Le bien-être des immigrants souffre. Un texte d'André Magny, paru le 27 mars 2025 dans Le Franco. Prendre la décision de changer de pays peut être exaltant. Vivre avec cette décision, une fois arrivé dans son nouveau port d'attache, peut être déstabilisant. C'est dans cette perspective que le bien-être des nouveaux arrivants doit être pris au sérieux, tant sur le plan physique que mental. Le réseau en immigration francophone de l'Alberta, RIFA, l'a compris. Conscient de la réalité des nouveaux venus en Alberta, le RIFA a récemment lancé une campagne de sensibilisation dédiée au bien-être des immigrants francophones. Avant de lancer cette campagne, qui se poursuivra jusqu'au début de mars, le RIFA a pris le temps d'analyser la situation et de consulter les intervenants de première ligne. C'est à partir de ces séances de travail que l'idée est née, explique Amina Koufaf, agente de communication de l'organisme. Elle explique qu'il a fallu échanger et finalement dispenser une formation à celles et ceux qui sont sur le terrain. Avant de sensibiliser le grand public, nous avons d'abord commencé par outiller les conseillers et conseillères en établissement. Ce sont eux qui reçoivent directement les nouveaux arrivants et qui travaillent avec eux. Une initiative née d'un constat alarmant. Amina Koufaf assure que les défis rencontrés par ces intervenants sont nombreux et qu'ils sont souvent témoins des difficultés d'adaptation des nouveaux arrivants. Des difficultés qui ont souvent pour conséquence d'affecter la santé mentale des immigrants. Ces discussions ont aussi permis de mettre en lumière et de mieux comprendre les principaux obstacles auxquels font face les immigrants. Adaptation culturelle, barrières linguistiques, difficultés à trouver un emploi et reconnaissance des diplômes étrangers. Quand on arrive en Alberta, ce n'est pas juste un changement de pays. C'est souvent un changement de continent. Beaucoup doivent gérer la pression financière, les démarches administratives et l'intégration de toute leur famille. C'est un stress énorme, insiste l'agente de communication. Des outils concrets pour sensibiliser et accompagner. Pour rendre cette sensibilisation plus accessible, le RIFA a misé sur des capsules vidéo, 5 au total. La première a été publiée le 13 février. Nous avons choisi de parler de bien-être mental, physique et émotionnel, plutôt que de santé mentale, car ce terme peut parfois être mal perçu, explique-t-elle. L'objectif de ces vidéos est d'aborder le sujet de manière positive et déstigmatisée. Nous avons voulu éviter d'utiliser un ton trop médical ou alarmiste. L'idée est de normaliser la discussion sur le bien-être sans qu'elle soit perçue comme une faiblesse, précise Amina. La campagne de sensibilisation sera clôturée par le partage du répertoire des services sociaux et de santé mentale de l'Association canadienne-française de l'Alberta, ACFA, l'organisme porte-parole de la francophonie albertaine et membre du groupe de travail qui a amorcé cette campagne. Une panoplie d'obstacles. Myriam Ben Ramdan, de la communauté francophone accueillante, CFA, de Calgary, accueille avec bienveillance cette campagne à la fois comme coordonnatrice et comme conjointe d'un homme à la recherche d'un emploi. Elle passe en revue toutes les embûches qui se dressent sur le chemin des nouveaux arrivants. L'accès au marché du travail est très compliqué, explique-t-elle. On exige une expérience canadienne. Pourtant, les gens ont 10, 15 et 20 ans d'expérience dans leur pays d'origine. Mais malheureusement, ils n'ont pas d'expérience au Canada. Résultat, de nombreux immigrants acceptent des emplois précaires et ou s'inscrivent à de nouvelles formations pour finalement pouvoir exercer leur métier un jour. Le manque de financement pour l'apprentissage de l'anglais s'ajoute au lot des difficultés d'intégration. Selon Myriam, il n'y a pas de financement pour leur permettre d'apprendre l'anglais. Et pour ajouter au parcours du combattant, les nouveaux arrivants font également face à la crise du logement. Selon un grand nombre, trouver un logement abordable devient en effet un véritable défi, surtout pour les familles. Entre les loyers élevés et le coût de la vie grandissant, certains se retrouvent dans une situation fragile dès leur arrivée. L'accès aux services en français est un autre problème majeur, notamment en santé. Il y a peu de médecins francophones, constate la coordonnatrice. Pour des personnes qui ne maîtrisent pas encore l'anglais, cela peut représenter un autre obstacle important pour leur bien-être et celui de leur famille. Des attentes en décalage avec la réalité. Beaucoup d'immigrants arrivent avec l'idée que le Canada leur offrira rapidement une vie meilleure, mais la réalité est souvent plus dure. La majorité a connu cette déception, admet Myriam. Entre les difficultés d'emploi, les problèmes de logement et les barrières linguistiques, je dirais que 60 à 70 % des gens passent par une phase dépressive. Si elle a réussi à s'intégrer et à trouver un emploi stable, son mari, lui, a connu un parcours plus difficile. Il a vu que les salaires ne sont pas aussi élevés dans les organismes francophones, raconte-t-elle. Alors, pour améliorer ses chances sur le marché du travail, il a commencé à suivre des cours d'anglais. Mais le manque de financement l'a contraint à arrêter. Il a dû se tourner vers des emplois plus précaires, comme chauffeur Uber. Cette situation a un impact psychologique important. L'absence d'un réseau de soutien et le manque de perspectives professionnelles mettent souvent les hommes immigrants dans une position délicate, surtout lorsqu'ils viennent de cultures où le rôle de subvenir à la famille est ancré et essentiel. Un diplôme reconnu, mais inutilisable. L'immigration est souvent perçue comme une promesse d'un avenir meilleur. Mais pour Sabrine, nous respectons ici sa demande de garder confidentiel son nom de famille, ingénieure en biologie industrielle et titulaire d'un master en agroalimentaire, la réalité est bien plus complexe. Arrivée en Alberta par le biais d'entrée express, elle espérait mettre à profit ses compétences et son expérience internationale. Pourtant, elle se retrouve aujourd'hui dans l'impasse. L'objectif principal? La reconnaissance des diplômes. J'ai fait l'équivalence de mes diplômes au Canada, raconte Sabrine, et ils sont reconnus comme deux diplômes de master, mais ça ne suffit pas. En Alberta, elle ne peut pas exercer comme ingénieure sans passer par un processus de certification long et coûteux. Expérimentée, l'ancienne enseignante, dans de nombreuses écoles internationales francophones, ne voit aucune porte s'ouvrir, et elle n'est pas toute seule. Raouf Farah, tunisien également, vit la même situation. Mais en plus, il a 10 ans d'expérience comme ingénieur en Ontario et au Québec et sa résidence permanente. Quand je postule à un emploi, je reçois une réponse négative 3 mois plus tard, sans explication ou aucune réponse du tout. Je me sens comme si je lançais mes candidatures dans un trou noir. C'est ça qui est le plus frustrant pour lui. Son statut d'immigrant complique aussi son quotidien. Sans emploi, louer un logement devient presque impossible. Pour louer, il faut une preuve d'emploi. Et cette preuve, je ne peux pas l'avoir parce que je n'ai justement pas d'emploi. C'est un cercle vicieux, ajoute-t-il, désemparé. Face à cette impasse, M. Farah souligne la nécessité de mieux préparer l'intégration des nouveaux arrivants, surtout pour les métiers réglementés comme celui d'ingénieur. Il recommande aux futurs immigrants de ne pas sous-estimer la difficulté du processus. Face à des phrases déchirantes comme celle de Sabrine, qui, de sa voix brisée, lance un « J'ai vraiment tout essayé », Myriam Ben Ramdan est convaincue que l'élément clé de la réussite en tant que nouvel arrivant, c'est la préparation. Et surtout, de se rappeler les raisons qui nous ont fait quitter le pays de nos ancêtres. C'était « Le bien-être des immigrants souffre », un texte d'André Magny, paru le 27 mars 2025 dans Le Franco.
Louise Beaudoin, « Au front pour la culture québécoise ». Un texte de Roxane Liouzon, paru le 31 mars 2025 dans Le Devoir. Ça, c'est la première fois que je me suis présenté aux élections. Louise Beaudoin désigne une photo encadrée d'elle, entourée de micros de journalistes et accompagnée par nul autre que René Lévesque. Les murs de son appartement centenaire d'Outremont, où l'ancienne ministre Péquis habite depuis les années 1980, sont tapissés de photographies où elle figure avec de multiples personnalités publiques, de même que d'œuvres d'art. Il y a tellement de tableaux que plusieurs d'entre eux sont appuyés sur le sol. Madame Beaudoin soulève un dessin de son amie Clémence Desrochers sur lequel figure un poème de son père Alfred Desrochers. « C'est une vraie artiste », souligne-t-elle. vêtu d'un tailleur gris foncé orné d'une fleur de lys scintillante et de la rosette de la Légion d'honneur, la politicienne de bientôt 80 ans reçoit Le Devoir à l'occasion de la sortie de son livre « Louise Baudouin entretient ». Elle s'assoit devant sa longue table en bois parsemée de livres et de documents, tout près du portrait de son mari, François Dorlot, décédé il y a plus de 5 ans, à qui elle dédie son ouvrage. « C'est mon premier et mon dernier, je le garantis », lance-t-elle. Faire le récit détaillé de son impressionnant parcours professionnel a été un travail de longue haleine, un projet sur lequel elle travaille depuis 3 ans, en compagnie du politicologue Stéphane Paquin et de l'historien Mathieu Roy. La première fois qu'elle a été élue députée du Parti québécois à 49 ans en 1994, elle militait déjà depuis une 30aine d'années pour le parti. Elle avait été directrice de cabinet du ministre des Affaires intergouvernementales du Québec, présidente du parti dans la région de Québec pendant la première campagne référendaire, déléguée générale du Québec à Paris et directrice de la distribution du marketing et des affaires internationales à Téléfilm Canada. Au sein du gouvernement, elle a été ministre déléguée aux affaires intergouvernementales canadiennes, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Charte de la langue française et ministre des Relations internationales. Sous le format de questions et de réponses, dans une langue accessible, l'essai commence par un récit de sa jeunesse, au sein d'une famille bourgeoise de la haute ville de Québec. Elle dépeint ensuite les coulisses de plusieurs moments charnières de l'histoire du Québec avec moult anecdotes et observations personnelles. Comme historienne de formation, j'avais le souci de la rigueur, souligne la Québécoise au regard fier. Pour s'assurer de l'exactitude de tous les faits rapportés, Mme Baudouin a visité avec Mathieu Roy les Archives nationales, où elle avait déposé en 2003 et en 2012 de nombreux documents issus de ses années au pouvoir. Avec Julie Cardinal, ma principale collaboratrice pendant les 8 ans et demi où j'étais ministre, on avait rempli des boîtes en vrac et on était allé porter tout ça, raconte-t-elle avec nostalgie. Au cœur des relations France-Québec. En fouillant dans ses archives, l'éternel souverainiste dit avoir découvert des perles, des choses que je n'avais pas oubliées sur le fond, mais je n'avais aucune idée où c'était. Parmi celles-ci, une lettre de l'ancien premier ministre français, Michel Rocard, lui était adressée. Madame Baudouin lui avait demandé son avis sur des propos de Robert Bourassa, selon lequel le concept de souveraineté-association allait à contresens de l'histoire, notamment de l'Union européenne. J'ai demandé à M. Rocard, « Est-ce que Bourassa a raison ?»« Nous, on pense que non, parce que les pays européens sont demeurés indépendants. L'Europe, c'est surtout une union économique permettant que les marchandises et les personnes circulent, et pour nous, la souveraineté-association ressemblait à ça », expose Mme Baudouin, les yeux clairs remplis d'éclairs. Le socialiste français lui avait donné raison par le biais d'une lettre manuscrite qu'elle avait ensuite transmise à M. Bourassa pour tenter de le convaincre. Sans succès. Celle qui a consacré une partie centrale de sa carrière au développement des relations entre le Québec et la France a côtoyé des hommes politiques marquants, comme le président François Mitterrand. Elle décrit comme elle a construit son spectaculaire réseau de contacts. Madame Baudouin souligne qu'elle est l'une des dernières de sa génération de femmes politiques à publier ses mémoires, après Louise Harel, Lisa Froulat et Pauline Marois, entre autres. Si on met ça ensemble, ça fait l'histoire de l'époque d'un point de vue féministe, estime celle qui a longtemps évolué au sein d'un boys club. Je voulais laisser ce témoignage historique, décrire comment c'était dans le temps. Menace à la culture québécoise. Elle a l'impression de vivre aujourd'hui dans un tout autre monde, où les nations se replient sur elles-mêmes au lieu de s'ouvrir aux autres, et où la culture et l'identité québécoise sont plus menacées que jamais par les États-Unis. Dans ce contexte, le Québec doit se défendre lui-même en s'alliant à d'autres pays, ne pouvant compter entièrement sur le Canada. Quand j'entends Trudeau dire à la CNN que ce qui nous définit comme Canadiens, c'est qu'on n'est pas des Américains, pauvres autres, j'espère qu'ils vont se définir. Les Québécois, je pense qu'on sait qui on est. On a une histoire distincte, un code civil, une économie sociale, solidaire et coopérative, a lancé Mme Beaudoin. Les Québécois ont résisté pendant 450 ans. On est capable de résister à Trump, ajoute-t-elle avec détermination. La politicienne s'est d'ailleurs battue pendant une bonne partie de sa carrière de ministre pour faire entendre la voix du Québec au sein de la francophonie internationale et de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le Canada ne voulait pas que le Québec joue son rôle, dit-elle. Guerrière. Ce côté guerrier lui a aussi servi comme ministre de la Culture pour défendre le budget de son ministère, rarement perçu comme prioritaire pour les gouvernements. 1% du budget de l'État pour la culture, c'est ridicule. Il faut que ce soit au moins 2%, juge-t-elle, alors que le plus récent budget Girard accorde environ 1,2% à la culture. Ses plus récents coups de cœur d'œuvres québécoises sont le film « Berger » de Sophie Deraspe et la pièce de théâtre « Pas perdu » d'Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Proucloutier. Aujourd'hui, du haut de ses 79 ans, Mme Beaudoin est toujours au front. Elle est présidente du conseil d'administration du regroupement des événements majeurs internationaux et vice-présidente de la Fondation René Lévesque. Elle a été membre du comité conseil sur la découvrabilité des contenus culturels, qui a remis son rapport en janvier 2024 au ministre Mathieu Lacombe. Elle a récemment signé une lettre dans les médias pour appeler à une résistance anti-Trump et une autre pour dénoncer le projet de poste de transformation électrique sur le terrain de la Grande Bibliothèque, qui est l'un de ses grands legs en tant que ministre de la Culture. Son rêve que le Québec devienne souverain est aussi bien vivant. Elle estime que le changement de génération est réussi au Parti québécois, ce qui est encourageant. Elle continue aussi de visiter souvent la France, malgré l'absence pesante de son mari et éternel compagnon de voyage. Peut-être que je vais vivre comme Jeannette jusqu'à 100 ans, aussi en forme qu'elle, conclut-elle en souriant. C'était Louise Beaudoin, au Front pour la culture québécoise, un texte de Roxane Léouzon, paru le 31 mars 2025 dans Le Devoir.